À quoi ressemblera le monde en 2041 ? Dessinateur, scénariste, réalisateur depuis 40 ans, Enki Bilal travaille sur le thème du futur. Dans son nouvel album Bug, paru chez Casterman, il nous projette en 2041. Il imagine ce que provoquerait un crash informatique total qui priverait le monde de toutes ses données. C'est notre question du jour aujourd'hui. À quoi ressemblera le monde en 2041 ? Pauline Chanus s'est entretenue avec Enki Bilal. Il lui confie, pour commencer, à quoi ressemblera ce monde en 2041 donc ?
Il ressemble à un autre monde. C'est pour ça que volontairement, je n'ai pas fait de décalage graphique trop important. On est vraiment dans quelque chose qui est nous aujourd'hui. Quelques petits ajustements, par exemple une mosquée juste à côté de Notre-Dame pour faire pour donner un peu une idée d'un futur plausible. Mais non, c'est pas le chaos qui m'intéressait, parce que si j'avais dû montrer le chaos que ce serait, parce que ce serait vraiment un chaos si ça arrivait, il y aurait pas d'intérêt en fait à faire un livre là-dessus. Ce qui m'a intéressé, c'est les hommes par rapport à cette addiction qui l'aurait enlevée brutalement. Donc on entre dans l'histoire à travers d'ailleurs une jeune fille tout naturellement qui dit mais maman mon iPhone n'y a plus rien sur mon j'arrive pas à me connecter, et la mère lui dit mais c'est très grave, il y a plus rien nulle part. Et ça c'est quelque chose de, alors à cette échelle ça n'est pas plausible, je le dis tout de suite hein, je crois que ça, il y a des pare-feux qui nous mettent à l'abri d'une telle radicalité, mais il y a déjà des cyberattaques partout, il y a une cyberguerre qui se déroule, qui est larvée, etc. Il y a plein d'éléments perturbateurs, et donc on est face à un futur qu'on ne maîtrise plus. C'est un peu ça, notre futur est très excitant, mais il y a des embûches un peu partout, le transhumanisme, même l'aventure martienne, l'intelligence artificielle, tout ça ce sont des éléments qui sont déjà en train de s'implanter aujourd'hui dans nos vies. Et donc on est déjà dans ce futur-là.
Et vous avez toujours, enfin presque toujours en tout cas, ancré votre univers dans un monde post-apocalyptique. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, dans cette esthétique de ruines, de nature presque disparue, d'animaux mutants, de...
Bah, je suis pas d'accord avec vous. Je crois que il y a pas mal de choses. J'évite de montrer justement l'apocalypse. Ça m'intéresse pas. Alors qu'effectivement, qu'il y a des inquiétudes, des choses sombres. Bah, par exemple, dans la trilogie du coup de sang, je ne montre pas le cataclysme. Je montre le monde d'après où la nature reprend ses droits. Met l'homme à l'épreuve. Là, dans Bug, je ne montre pas les catastrophes. Je montre pas les morts. Parce que simplement, voilà, je dépasse cette vision-là pour faire une fable qui va nous permettre de nous poser des questions, qui moi me permet de jouer. Alors je dis jouer entre guillemets, évidemment, mais il y a quelque chose de jubilatoire à développer une thématique comme ça. Et si c'était morbide, je ne le ferais pas. Il y a rien de jubilatoire à être dans l'apocalypse précisément.
Non, mais les ruines, c'est pas forcément morbide. Je parlais aussi d'esthétique.
Oui,
bien sûr. Vous aimez là-dedans.
C'est vrai. Mais parce que c'est vivant. Enfin, c'est une façon de parler. Je veux dire, effectivement, si on regarde les images de Syrie actuellement, c'est pas vivant du tout. Mais c'est des images qu'on a aussi en permanence. Hein, donc c'est notre monde d'aujourd'hui. Non, ce que j'aime bien effectivement, c'est que quand une architecture est marquée par le temps. Alors, dans la mesure du possible, ce serait mieux que ce soit pas par des bombes ou par des éclats d'obus, mais que, voilà, que le temps ait fait son œuvre et qu'il donne une patine. Ça, c'est quelque chose qui est un peu la marque, sans doute, de mon graphisme. Mmh.
Vous dites que vous êtes pas pessimiste, mais l'humanité que vous montrez, elle est quand même pas très glorieuse, là. Elle est vulnérable, elle est fragilisée, elle sait plus vraiment comment réfléchir, en tout cas, elle n'a plus de mémoire.
C'est vrai. c'est parce que, mais oui, mais on est prévenu quand même, non? On le sait, ça. Quand Paul Virilio dit à chaque nouvelle invention d'un avion magnifique, on invente le crash magnifique qui va avec. Et c'est vrai. Donc il faut pas être surpris par ça. Alors c'est un jeu. Moi je le prends comme un jeu et pas comme une vision sombre. Mais ça vaut le coup de se poser des questions sur ce futur-là, parce que qu'on le veuille ou non, notre futur, on l'a balisé, mais on l'a pré-balisé, c'est-à-dire qu'on a lancé des éléments qui sont en train de se développer malgré nous, qui nous échappe d'une certaine façon. Donc, avec des gens qui mettent de la finance, qui mettent de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, mais donc ces forces-là, entre guillemets, sont à l'œuvre pour créer un nouveau monde, pour que l'homme soit plus heureux. Enfin, bref, on est presque dans des incantations idéologiques du XXe siècle de certains. Et donc ça, c'est notre futur. On est dedans, on a mis un pied dedans, et on peut pas s'en extraire. Donc, il vaut mieux se poser toutes les questions sur ce futur.
Et justement, vous vous dites toujours que vous voulez pas parler de science-fiction. C'est pour ça, c'est parce que pour vous, on est déjà dans de la science-fiction.
Absolument. On y est depuis déjà pas mal de temps. Quand je faisais des histoires, même par exemple le Sommeil du monstre, on disait ah, c'est de la science-fiction. Mais non. Je tirais vraiment la sonnette d'alarme sur l'obscurantisme religieux, sur des choses qui étaient. Mais je sentais monter. Moi, j'ai senti monter chez les talibans en Afghanistan. C'était clair comme de l'eau de roche.
Oui, on l'a dit après que vous aviez prévu, voilà, pressenti les attentats du 11 septembre.
Exactement. Bah oui, c'était écrit en 97, je l'avais dans mon livre. Mais c'est terrible de par aveuglément de ne pas voir la plausibilité d'une réalité et de mettre ça dans la science-fiction, parce que la science-fiction c'est rassurant.
Qu'est-ce que vous avez envie de voir en 2041?
J'aimerais, mais alors là, on va être dans une utopie, mais c'est bien aussi l'utopie. Il faut la réhabiliter, l'utopie. Bah, j'aimerais un monde globalisé, sans doute, oui, globalisé, mais peut-être avec cette utopie d'une sorte de gouvernance mondiale un peu apaisée qui gère un peu un monde sans réelles frontières, un monde où le métissage se fait naturellement, où les religions sont pas interdites, hein, mais sont rentrées à leur place, à savoir dans la sphère privée, voilà, et où tout le monde vit au mieux. Enfin, vous voyez, je donne des banalités quand même. Mais moi, je pense que la solution elle passe sans doute par la disparition des frontières. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt, parce que tant que la finance sera le nerf de la guerre de tous les pouvoirs au monde, tant que ce sera la finance qui commandera sur le politique, les frontières sont malheureusement nécessaires.
Voilà à quoi pourrait ressembler le monde en 2041 d'après Enki Bilal. Il était au micro de Pauline Chanu.